Radio Kasim, Grand Témoin.
Promoteur culturel, ancien ministre des Transports et Communications et député national, Jean-Marie Itantoumeï est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Jean-Marie Itantoumeï, soyez le bienvenu.
Merci bien de m'avoir invité.
Pendant près de 30 ans, vous avez activement participé à la promotion culturelle et à l'encadrement de la jeunesse par des activités d'éducation culturelle et civique. Nous parlerons de tout cela au cours de cet entretien. En 1983, vous devenez licencié agrégé en pédagogie appliquée, option français linguistique africaine de l'actuelle Université pédagogique nationale UPEN, ex-IPEN de Kinshasa. Après les avoir commencé à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwi dans le Bandundu, vous le savez, le vendredi 20 mars dernier, c'était la journée internationale de la francophonie, et pour la RDC, seulement 40% d'élèves maîtrisent bien la langue française selon le réseau des professeurs et enseignants de la langue française RENAPEF. Comme remède, ce réseau propose une révolution de la méthodologie d'enseignement. Jean Bosco Pouna, président de ce réseau, a fait ce constat à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Je vous invite à le suivre au micro de Nadine Foul.
Avant de chercher des causes de cette baisse de niveau, il faut d'abord commencer par évaluer les niveaux des professeurs et enseignants de la langue française de la RDC. Selon les professeurs Jean Bosco Pouna, ces enseignants sont restés sous les anciennes méthodologies et manières alors que le monde a évolué. La quasi-absence des bibliothèques dans les écoles publiques, voire dans des privées, explique aussi cette baisse. Une autre cause, c'est le surnombre des élèves dans des classes. Ces professeurs étant mal payés, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à chacun de ces élèves puisqu'ils doivent vaquer à leurs extramuros qui sont de bien nouer les deux bouts du mois. Les conseillers pédagogiques de l'Alliance franco-congolaise, professeur Prosper Kaibou, proposent trois pistes de solutions face à cette crise. Premièrement, l'urgence de l'intensification des sessions de formation pour les enseignants de la langue française. Ensuite, la volonté politique de chercher à relever la qualité de l'enseignement de la langue française. Enfin, les médias ont aussi une part de responsabilité. La création des émissions de vulgarisation de la langue française et la diffusion de pièces de théâtre en français contribueront à relever les niveaux. Les professeurs Kaibou indiquent aussi que les élèves ont une part de responsabilité en tant que principaux bénéficiaires. Ils doivent bien assimiler les leçons apprises auprès de leurs professeurs.
Votre réaction, Jean-Marie Itantoumeï, vous êtes un expert du français.
Tout en souscrivant à certaines des causes évoquées par mes collègues enseignants, j'insisterai beaucoup plus sur la volonté politique parce que j'ai même écrit une pièce Tournabisso et puis j'ai adapté une pièce que j'appelle Attendez-le, qui est Topaze. C'est-à-dire que si à l'époque l'enseignant qu'on appelait selon les provinces Mwalimu, Mulungeshi,
Molakisi,
Tatalundi, était le modèle. Il était bien habillé, culotte avec des chaussettes basses, c'était le modèle. Mais aujourd'hui, ceux qui ont joui de cet enseignement et qui sont aujourd'hui des dirigeants politiques négligent l'enseignement. Donc, j'insisterai sur la cause du mauvais salaire, de la mauvaise rétribution de l'enseignant et aussi le fait que les enseignants ont accepté en 1993 ce qu'on appelle aujourd'hui la motivation ou la prise en charge des enseignants par les parents, ce qui a réduit l'autorité de l'enseignant devant l'élève dont le papa ou la maman paye l'enseignant. Et l'élève préfère avoir des notes qu'on appelle points en français de belge par d'autres moyens que par l'étude. Et aussi le fait que beaucoup d'enseignants, cela a été évoqué certainement, n'ont plus le temps de corriger les notes de lecture et ne demandent même pas à leurs élèves de faire des résumés de livres comme nous le faisions à l'époque. D'où aujourd'hui, même à l'école, tout le monde discute en lingala, ce qui n'est pas mauvais. Mais le français étant la langue véhiculaire, la langue de l'enseignement, il devait d'abord être maîtrisé avant qu'on puisse discuter en nos langues nationales dans le cours d'école.
Pendant 23 ans, vous avez travaillé dans l'enseignement, vous avez été promu conseiller pédagogique à partir de 87, mais depuis 94, vous êtes enseignant indépendant. En 1989, vous créez le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation au bac en sigle. Quelle est la mission de cette institution?
Le bac a pour mission sont d'abord éveiller les esprits et les consciences et initier les élèves à l'esprit critique par des activités culturelles, le théâtre, la lecture, les exercices didactiques, la déclamation des poèmes. Nous initions les enfants à ce que nous appelons l'esprit critique. Car si nous, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y avait des activités parascolaires. C'est pour cela que, ayant compris qu'il faut d'abord former les enfants qui sont l'avenir pour ne pas répéter l'avenir de demain. Le BAC s'est imposé cette mission, cette lourde tâche dont nous nous sommes acquittés pendant 20 ans. Au mois d'octobre 2009, le BAC va accomplir 20 ans d'éducation civique et culturelle. Du côté civique, nous voulons que les enfants connaissent d'abord leur pays. Avant d'apprendre à l'enfant la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, d'abord lui apprendre le Congo, la RDC. Puisqu'il est malheureux de voir l'enfant congolais maîtriser l'histoire coloniale, l'histoire française et ignorer l'actualité ou l'histoire congolaise.
Depuis 1969, vous avez organisé plusieurs festivals, plus de 60 conférences, débats et des séminaires éducatifs et culturels, sans oublier des hommages rendus plusieurs fois à une dizaine de personnalités culturelles âgées ou décédées. Depuis 2002, vous initiez le Conseil supérieur de la culture et des arts, auquel ont souscrit plusieurs personnalités éminentes culturelles de différents secteurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de cette structure ?
À l'actif de cette jeune structure qui a des ambitions internationales, il y a dernièrement des journées de soutien, de fraternité, de solidarité à nos frères de l'Est, dont la guerre leur imposée a fait que l'école n'existe plus. S'il existe, les enfants n'y vont plus. Au cours de cette journée, nous avons dénoncé ce qui, plus tard, a été dénoncé par le chef de l'État, c'est que des acteurs politiques qui ont fait de la guerre à l'Est un front de commerce. Nous avons dénoncé la démagogie du fait que tout ce qui était envoyé à l'Est ou presque était détourné par ceux-là qui devraient apporter les biens et les munitions à l'Est. Nous avons dénoncé le fait que les dirigeants politiques préfèrent conquérir le pouvoir par la force brutale, grossière, par les armes, que par le débat d'idées, que par une compétence constatée par ceux qui peuvent vous donner une promotion. Au lieu de ne promouvoir que la culture instinct, la culture des jouissances, la culture du sensationnel, nous avons invité le chef de l'État, les autorités, à accorder une attention à tous les secteurs culturels, en passant par la photo, la calligraphie, le théâtre, l'écriture, l'art plastique, parce que la culture c'était tout. De l'appellation première qui était Conseil supérieur de la culture et des arts, après discussion, aujourd'hui la dénomination retenue est le Conseil national de la culture, parce que se sont trouvés que culture et art, c'est une expression inutile, et plus Conseil supérieur, on croirait que c'est une structure de l'État. Or, l'ONG, elle est non gouvernementale, cette structure, elle se veut indépendante, mais partenaire au gouvernement, partenaire au ministère de la culture.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Jean-Marie Ntantoumé, vous êtes promoteur culturel, ancien ministre des Transports et Communications et député national. Vous avez plusieurs publications à votre actif. Vous en avez énuméré quelques-unes déjà au début. Mais citons encore quelques repères pour mieux comprendre la petite histoire de la société civile congolaise et ses situations conflictuelles ou tumultueuses. Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux acteurs de la société civile de l'utiliser comme simple tremplin pour occuper des postes politiques? Vous-même qui, de 94 à 97, étiez conseiller de la République, c'est-à-dire député de la transition, en juillet 2000, député national, et du 20 novembre 2000 au 14 avril 2001, ministre des Transports et Communications.
Ceux qui accusent les acteurs de la société civile de l'utiliser comme tremplin n'ont pas tout à fait tort. Ils ont raison partiellement. Mais quelle est la différence? Nous avons même créé une organisation appelée OFIS, Organisation des Forces Intersociales Professionnelles de la Société Civile. Nous voudrions que tout en utilisant la société civile, c'est-à-dire les associations, comme tremplin, mais une fois arrivé au pouvoir politique, qu'on y reste dedans, qu'on ne puisse pas changer de philosophie. Notre mission philosophique est qu'un ministre issu de la société civile, un député issu de la société civile, ait un comportement différent par rapport à celui issu d'un parti politique. Pourquoi ? Celui de la société civile doit être au pouvoir pour servir le social d'abord, c'est-à-dire être le relais de tous les acteurs sociaux professionnels, des étudiants, des élèves, des professeurs, des magistrats, des infirmiers. Quand vous êtes au pouvoir, vous savez d'où vous venez et vous travaillez pour le rayonnement de tous les secteurs socio-professionnels. Mais ne pas devenir complice d'une politique politicienne, n'est pas devenir partisan d'un parti politique. C'est ça que nous voulons. Malheureusement, il se trouve parmi les acteurs de la société civile qui ont émergé et qui sont arrivés aux fonctions politiques des personnes qui ont abandonné l'esprit de la société civile, qui sont devenus conflictuels, partisans, parce qu'ils sont soit carrément dans des partis politiques ou partisans des partis politiques. Tel qu'aujourd'hui, je regrette que ceux qui ont été élus indépendants, au lieu de rester dans un groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale, au Sénat, ils ont adhéré soit à l'AMP ou à l'Union pour la Nation. C'est une erreur.
On dit souvent que la société civile est plurielle, mais il y a des moments où nous entendons parler du président de la société civile. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout cela?
En fait, la société civile est plurielle et va toujours demeurer plurielle. Il est vrai que pendant la conférence nationale souveraine, il n'y avait qu'une seule structure de la société civile avec un seul président. Nous citerons feu Dr Numbi. Mais après la CNS, elle s'est éclatée à plusieurs structures parce qu'elle était partenaire à l'opposition. Elle a suivi l'éclatement de l'opposition où il y avait l'USAN, il y avait l'URD et d'autres groupes. C'est ainsi donc qu'après la CNS, pendant le Haut Conseil de la République, il y a eu plusieurs structures. Je citerai notamment l'Organisation des Forces du Changement, que moi-même je dirigeais, avec l'actuel ministre Bassengue Sekatintema qui était mon secrétaire. Il y avait la Société Civile du Zaïre, ce CISA, dirigée par mon frère Bahat Lokwebo. Il y avait la Société Civile Isoral, partenaire au président Tshisekedi. Et il y avait la Société Civile Isoras Kibasa, dirigé par mon confrère Moulongo Kalonda, aujourd'hui directable du gouverneur du Katanga. Ça, c'était la situation avant l'arrivée de l'AFDEL. Après l'arrivée de l'AFDEL, il y a eu 5 structures qui ont émergé. Il y a l'Office, mon organisation, Organisation des Forces Indépendantes de la Société Civile. Il y avait le Comité de Concertation de la Société Civile, dont j'étais promoteur, mais dont j'ai légué la direction au bâtonnier Mokangolo. Et il y avait le Conseil National des ONG du Congo, Konoko, dirigé par Kombo Tongaboke. Et il y avait encore la Société Civile du Zaïre, devenue du Congo, Sosiko, dirigé toujours par Modeste Bahat Lokwebo. Et il y avait le Conseil National des ONG qui s'est mué en secrétariat exécutif de la Société Civile, qui était dirigé par Amouli, Dr Matusila, et Mordene Kassoussoula, et Dr Mou. Ce sont ces structures-là que j'ai citées en dernier lieu qui ont délégué des membres au dialogue intercongolais. Au jour d'aujourd'hui, les structures qui sont parties prenantes à l'organisation sont donc la SOSICO, le comité de concertation, la CONOCO et le secrétariat exécutif dont aujourd'hui le responsable est Kibisa Nopes. C'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un président de la société civile. Il y a plusieurs présidents de différentes structures, parmi lesquelles la SOSICO, qui n'est qu'une plateforme parmi tant d'autres. Mais comme elle porte le nom de SOSICO, les gens croient que tout le monde est membre de la SOSICO. Mais que non. C'est important de le savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont des plateformes. Il y a même des gens qui ne sont dans aucune de ces plateformes. Donc, il n'y a plus une seule structure ni un seul président de la société civile.
Entre 2002 et 2003, vous participez au dialogue intercongolais en tant que délégué du gouvernement. En 93, vous venez de le dire, vous initiez l'Organisation des Forces Indépendantes de la Société Civile Office. L'Église catholique, vous le savez, va en guerre contre la corruption en RDC et opte pour la promotion de la bonne gouvernance. C'est ce qui a été mis en exergue au cours du 3e atelier national des acteurs politiques catholiques qui s'est clôturé le dimanche 22 mars dernier à Kinshasa au centre Bethanie. Cet atelier a été organisé par la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, CAEL. Il est ressorti de cet atelier de 3 jours que la corruption est une antivaleur qui paralyse les efforts de redressement politique, économique, social et moral, voire spirituel en RDC. Par conséquent, M. l'abbé Ambroise Mouchembe, secrétaire de la CEAL, a interpellé la conscience des acteurs politiques catholiques qui assument la gestion de la chose publique. On écoute l'abbé Ambroise Mouchembe, il est au micro de Astin Zigbia Tayoro.
Nous voulons en fait que les acteurs politiques catholiques, qu'ils soient des modèles, prennent conscience d'abord du phénomène, de la pratique qui finalement est en train de tuer notre société, que nous puissions repartir sur d'autres bases. Parce que la corruption, qu'on le veut ou pas, n'aide pas au développement d'un pays. La corruption entretient la pauvreté, malgré les apparences. Comme en temps de guerre, certains s'enrichissent, d'autres aussi profitent de la corruption pour s'enrichir. Ça veut dire que certains sont maintenus dans la pauvreté à cause de la corruption. Nous donnons l'occasion à nos acteurs politiques de réfléchir pour mieux agir, pour que leur action porte des fruits et des fruits demeurent.
Votre réaction, Jean-Marie, en tant que Mail, comment endiguer la corruption en RDC?
D'abord, pour qu'elle soit endiguée, je l'avais même dit au cours de cet atelier, il faudrait d'abord que ceux qui gèrent le pays n'y accèdent pas par la corruption. Or, ce jour-là, j'étais content que M. Déli Sessanga, député élu du MLC, avait reconnu que malheureusement, beaucoup de députés étaient élus grâce à la corruption. Du moment où vous êtes le fruit de la corruption, vous êtes vous-même corrompu et corrupteur. C'est difficile. Et puis, du moment où nos frères, nos sœurs, nos amis, quand leur frère est promu, ministre, PDG, quand ils vont le voir, ils lui exigent plus que son salaire. Donc la population elle-même encourage la corruption parce qu'elle demande à ceux des membres de sa famille qui est promu plus que les moyens de le permettre. D'où le PDG, le ministre, est obligé de prendre dans les tiroirs de l'État. Et cela fait plaisir pour toute la famille.
Ce n'était pas le cas pour vous?
Je ne sais pas, je ne voudrais pas répondre. J'aimerais que vous alliez au ministère de Transport et Communication, vous demandiez aux agents quelle a été l'attitude du ministre en tant que mais pendant sa gestion. La cause, elle est aussi sociale. Les gens ne peuvent pas accepter de voir un ministre, un PDG, être comme tout le monde. Et que il puisse, après le mandat, ne pas avoir une maison personnelle, ne pas avoir de moyens. Donc, c'est la population. Et l'Église catholique, je lui dis, pendant la campagne, j'étais choqué de voir que dans certaines paroisses, les curés présentaient les candidats qui donnaient le groupe électrogène. Mais quand il amène le groupe électrogène, et que moi, je ne l'apporte pas, c'est que vous voulez qu'on vote celui qui amène le groupe électrogène. Bref, il faut d'abord que les moyens qui ont permis d'accéder au pouvoir puissent être changés en 2011. Il ne faut pas passer au pouvoir par la corruption et croire qu'on peut y mettre fin. Or, aujourd'hui, beaucoup sont le fruit de la corruption et pratiquent la corruption pour se maintenir. C'est dire, pour nous au BAC, nous souhaitons que la population elle-même prenne ses responsabilités en ne demandant pas à ceux qui sont au pouvoir plus qu'ils ne peuvent. Et que ceux qui sont au pouvoir sachent que en amassant beaucoup de richesses, ils ne vont rien gagner, car vous pouvez tout amasser, mais votre âme et conscience, vous ne pourrez pas la surcharger de biens matériels.
Jean-Marie Antantoumeil, promoteur culturel, ancien ministre des Transports et Communications et député national, Kikundu, dans la province du Bandundu, est votre lieu de naissance. Le 18 octobre 1951 exactement, vous êtes marié et père de 5 enfants. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Ah, j'étais un enfant, d'ailleurs mon nom, Ntantoumeil, Ntantou qui signifie la tristesse, Mei qui signifie la monnaie la plus précieuse, la petite monnaie de l'époque belge. Alors, cette fusion d'Ntantou tristesse et de Mei signifie aujourd'hui le prix de la souffrance. À ma naissance, maman n'était pas du tout contente parce qu'elle aurait voulu mettre fin avant ma naissance. Je suis né un peu malgré la volonté de ma mère. Voilà pourquoi on m'a donné le nom d'Ntantou. Mais par la suite, pour compenser, puisque dans ma vie, on me voit rarement triste, j'affiche rarement l'air de tristesse, c'est ainsi qu'à l'arrivée de l'authenticité, j'ai pris le nom de Mei, qui signifie le prix de la souffrance. Je suis le résultat de la souffrance, le prix de tout ce qu'on obtient après la souffrance. Parce que les bons fruits est celui qui arrive après la souffrance. C'est pourquoi, dans ma vie, je suis presque le résultat de la souffrance. Dans ma vie, chaque fois que je pensais perdre un avantage, au bout de cette perte, j'avais mieux que ce que j'avais perdu. C'est le cas notamment, après ma 6e primaire, je suis orienté ailleurs que là où devait aller le candidat frère. Mais après, j'ai été heureux parce que j'ai fini par être candidat frère et même frère. À la fin de l'université de l'UPN, on m'a refusé la mention distinction que je méritais, parce qu'on ne voulait pas que je sois assistant à l'UPN, pour ne pas être concret à mes professeurs. Mais pendant la CNS, mes profs ont découvert à moi les compétences et ils m'ont demandé de rentrer, être assistant, j'ai refusé. Quand Mouzé est venu, on m'a cru fini Moutoua Kengo, Moutoua Moussengo. Mais avec Mouzé, j'ai eu la plus grande promotion que je n'avais pas eue avec Kengo, avec Moussengo. Je suis devenu ministre. Donc, c'est vous dire que souvent, quand on me veut du mal, souvent ce mal est transformé en bonheur au bout du compte.
De 1959 à 65, vous faites des études primaires à Kikwala, Kassa, Leverville, Soa et Kinzambi chez les frères Joséphites de Kinzambi. De 65 à 66, c'est le cycle d'orientation à Infra, Ex-Etac, École technique, administrative et commerciale, toujours chez les frères Joséphites de Kinzambi. Citez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
L'un des plus grands amis, c'est le frère Sona Ignace, que nous appelons Sonas. Tous, on était de Bana Kwenge. Tous, on partait de Kwenge Pelissé. On partait à pied pour Kinzambi. Et quand nous étions au noviciat, il a voulu quitter le noviciat, donc la congrégation avant moi. Je lui ai conseillé et il est resté. Mais, paradoxalement, j'ai quitté le couvent et lui, jusqu'aujourd'hui, il est encore religieux. Il est supérieur de la maison des frères Joséphites à Rigini, à Salongo. Voilà un peu le paradoxe parmi les amis dont je garde de très bons souvenirs.
En 71, vous achevez les études secondaires des humanités littéraires option latin philo à l'Institut Saint-Jean Bosco Indobo à Kikwit Sacré-Cœur, toujours chez les frères Joséphites de Kinzambi. Pourquoi avoir quitté le séminaire? Vous avez perdu la foi?
Non, vous savez, nous étions non pas au séminaire où vont les futurs prêtres, mais nous étions à la pédagogie des frères Joséphites de Kinzambi. À Kinzambi à l'école primaire, à Sacré-Cœur à l'école secondaire, je suis allé au noviciat après les humanités littéraires, et nous étions le premier groupe à aller au noviciat après avoir obtenu son diplôme d'État. Si j'ai quitté la congrégation, avec laquelle j'ai de très bonnes relations, retenez que je suis le secrétaire général des enseignants de frères Joséphites de Kinzambi, à Deski, association. Mais si j'ai quitté la congrégation, c'est parce que je suis un homme de principe. J'aime qu'on puisse pratiquer ce qu'on dit. Être un peu pratiquant de la règle qu'on a émise. Quand j'avais vu qu'il y avait beaucoup de divergences entre mes supérieurs et moi, je leur ai dit, pour garder de bonnes relations, je préfère partir de la congrégation, afin de ne pas être hypocrite. Voilà pourquoi je suis parti, je ne dirai pas plus, mais aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec les frères, je suis le relais entre nos frères, leurs anciens élèves et les anciens frères de Félix Zambé.
Nous ne pouvons clôturer cette émission, Jean-Marie Antantoumé, sans vous inviter à suivre ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons joint au téléphone pour vous.
Maître Justin Moufanda, je suis avocat au barreau qui s'en sera pas cité. Par rapport à M. Jean-Marie Antantoumé, je suis son neveu. Jean-Marie Antantoumé, c'est un éducateur, c'est un père de famille, un oncle, qui nous a tous initiés à la morale, à l'honnêteté, à la sincérité, à l'ouverture. Oh oui, il nous a toujours dit que dans la vie, on peut tout faire pour que vous n'arriviez pas quelque part, mais s'il est prévu dans les plans des dieux que vous devez y arriver, nécessairement, on y arrivera. Ce que je n'aime pas de lui, c'est la colère. Hein. Il est très épidermique, parfois très colérique. Je lui demande de bien vouloir continuer à exceller dans son esprit de pardon, de l'écoute de ses neveux.
Réaction Jean-Marie Antantoumé, je vous ai vu très calme, en train de suivre attentivement et à cligner un peu les yeux quand on a cité la colère.
Bon, en fait, colérique, non, mais je suis tellement sévère, je suis rigoureux. Et ce qui manque au Congolais, c'est la rigueur. Je n'aime pas de la légèreté. Je suis très strict. Et quand j'étais directeur de discipline, avec M. l'abbé Kinzanza, qui est décédé, que son âme repose en paix, il était trop libéral et moi, très très rigoureux. On m'appelait souvent Azali logique, Mouta logique. C'est ça peut-être qu'on appelle la colère. Parce que quand vous êtes négligent, c'est quand tu as commis une faute et que tu souris, ça m'énerve. Parce que quand on a commis une faute, on doit avoir le remords et ne pas sourire. Et je suis prêt à gifler si le prêtre près de moi. Mais après, je pardonne, je comprends.
I'm going to go to the hospital.
Cette émission à un mot à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment.
Je dirais aux Congolais d'être conséquents. Nous avons mené un grand combat pendant la conférence souveraine pour un renouveau dans la gestion du pays, pour une conversion de mentalité. Je n'aimerais pas qu'en 2011, ils puissent élire selon les critères qu'ils ont utilisés en 2006, c'est-à-dire voter, élire les gens selon le matériel, selon la bière. Voilà où on en arrive quand on a des élus qu'on a choisi parce qu'ils vous ont donné à voir, ils ont acheté leur pouvoir, ils n'ont plus de compte à vous rendre et ils gèrent le pays n'importe comment. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une qualité qui manque à 60% au niveau des institutions législatives des autres pays. Parce que ces députés n'ont pas de compte à rendre, ils ont acheté leur pouvoir pour la plupart, pas tous, grâce à la guerre, grâce à l'argent.
Jean-Marie Ntantoumeil, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion, en tant que témoin et acteur de la transition, de parler à nos compatriotes. Merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Jean-Marie Ntantoumeil, promoteur culturel, ancien ministre des Transports et Communications et député national, à la technique Paul Badianyama, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Iga Barrière, dans la province orientale et partout dans le monde.